16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter en compagnie d'un garçon qui, à mon avis, a le rythme dans la peau. Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Oui, c'est si bien me connaître. Toujours le premier sur le dance floor, pas moyen de me retenir. Esclave du beat, j'étais esclave du beat, je reste. Et d'après ce que j'ai compris, ça va m'être utile cet après-midi Stéphane.
Oui Mathieu, aujourd'hui c'est le point commun de nos trois personnages. Ils ont dansé avec les stars. À l'occasion du retour de l'émission ce soir sur TF1, on réunit sur notre plancher bien ciré, attention de ne pas glisser Mathieu, des stars de la danse qui ont fait danser des stars. À commencer par celle que le magazine américain Time a désignée comme la danseuse du siècle, Martha Graham, qui a presque traversé tout le XXe siècle en dansant jusqu'à 75 ans et continue encore après à mettre son génie au service de ses chorégraphies et de Madonna aussi. Puis lui, il a dansé et fait danser un roi, rien que cela. Je vous raconte Jean-Baptiste Lully, le surintendant de la musique de Louis XIV qui fut baladin et avait, vous le savez, le rythme dans la peau avant d'avoir sa canne dans le pied.
Ah oui, eh oui, ça finit mal ça.
Ça finit mal, oui, la gangrène, ça se déclare. Oui. Quant à vous Mathieu, vous brosserez le portrait d'une des figures cultes de danse avec les stars, celui qui a fait danser les stars. Ça n'a pas toujours été simple, j'ai nommé Chris Marquez.
Oui Stéphane, si on m'avait dit en sortant de Sciences Po qu'un jour je ferais le portrait de Chris Marquez, qui plus est quasiment bénévolement, je ne l'aurais pas cru. La vie est pleine de surprises et Chris Marquez, vous allez voir, est plein de vie. Eux aussi Stéphane, ils sont quasi bénévoles et pourtant plein de vie, ce sont nos chroniqueurs.
Et avec nous comme chaque jour, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes de ce monde, Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour messieurs, bonjour à tous. Je vous emmène dans les serres du jardin du Luxembourg. Oui, là-bas, les vraies stars, ce ne sont pas les sénateurs, mais les orchidées des serres. Et c'est peu dire qu'on les bichonne, ces demoiselles. Elles vivent dans la musique toute la journée. Il faut qu'elles croissent harmonieusement, si vous voulez. Mais on leur met pas n'importe quelle
musique.
On
leur amène la musique ?
Oui, bien sûr.
Bien sûr.
Et toutes les fleurs ne sont pas traitées de la même manière. C'est un peu comme les chroniqueurs dans ce...
Vous êtes mieux traité que nous. Avec nous, David Castello-Lopez,
oui.
Qui remonte aux origines d'une invention.
Oui, et aujourd'hui, c'est le point d'exclamation, hein, qui était parcimonieux quand j'étais petit et qui est devenu complètement ubiquitus, comme on dit. Non, je suis désolé, c'est un mot qui n'existe pas en français. Il existe en anglais, le fait d'avoir le nom d'ubiquité, on peut le dire. Enfin, il est partout, c'est ça qu'on veut dire.
Il est partout, on peut le dire aussi simplement. Je sens que vous avez une bonne thématique. Là. Demain, vous nous ferez le point de suspension.
Et le point d'ironie dont on a parlé l'autre jour.
Connaissez le point d'ironie?
Je connais le point d'ironie, mais il n'a pas pris, disons.
Il n'a pas pris, mais il faut le relancer. Il faut encore le relancer.
Et avec Olivier Poul, c'est bien, on va remonter aux origines d'une recette, d'un mets, d'un plat.
Regardez, pour une fois...
Non, il a...
Eh oui, Paul,
il
faut expliquer à nos auditeurs hein, ce que vous venez de
citer. C'est une borne qui indique de la National 7 qui indique Montélimar. Quelle est la spécialité de Montélimar?
Le nougat. Le nougat. Voilà. Eh bien, on reviendra à l'origine du nougat de Montélimar parce que c'est une recette particulière. Puis on va en déguster, allez-y, j'ouvre la boîte, je fais passer, c'est ma tournée.
Enfin, c'est le grand paradoxe de Stéphane Bern, il refuse obstinément de participer à Danse avec les Stars sous prétexte qu'il ne veut pas se couvrir de ridicule, et pourtant il participe chaque jour de bon cœur à Bern to be Alive, ce jeu dont pourtant il ressort rarement grandi. Nous le vérifierons aux alentours de 5h-10, en attendant prenez un nougat Stéphane.
Merci.
Mais d'abord, découvrons le destin de notre premier personnage à avoir dansé avec les stars. Le magazine américain Time l'a désigné danseuse du siècle en 1998, une pionnière de la danse contemporaine, si influente dans son domaine qu'on la compare parfois à Picasso ou Stravinsky. Stéphane Bern nous raconte une star de la danse et une danseuse qui a côtoyé de grandes stars aussi, Martha Graham.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Nous sommes à Manhattan le 8 janvier 1930 sur la scène du théâtre Maxine Elliott, tout près du majestueux édifice de la bibliothèque publique. Ce soir-là se tient la première d'un spectacle de danse, mais pas n'importe lequel. Il s'agit de Lamentation, l'une des toutes premières œuvres véritablement originales de Martha Graham. Elle a alors 35 ans, c'est un solo, peut-être le plus iconique de sa carrière. Sur scène, il n'y a qu'elle, pas de décor, juste une chaise sur laquelle elle est assise. La danseuse est méconnaissable. Étant serrée dans un tissu extensible, un jersey élastique, ne laissant apparaître que ses mains, ses pieds nus et son visage. Sa bouche est maquillée de rouge, ses yeux fardés de vert. La musique, entêtante, est un morceau du Hongrois Zoltán Kodály. Martha effectue des mouvements brusques, intenses, à la fois d'une extrême souplesse et d'une tension maximale. Elle se balance, accélère, ralentit, lance les bras vers le haut, puis retombe. On la croirait en lutte contre elle-même, contre la pesanteur du sol aussi. L'effet est encore renforcé par son costume. Le public est stupéfait. Dans Lamentation, quand Miss Graham dépeint l'agonie du chagrin, elle ne s'affaisse pas comme une fleur ou ne se fiche pas dans une attitude comme la patience sur un monument. Elle est le chagrin. Depuis ses premiers mouvements de tête et de torse violents et perplexes, jusqu'à la fin quand elle détourne sa tête avec une finalité pitoyable et terrible, écrira un critique du journal Philadelphia Record à la suite d'une représentation 2 ans plus tard à Philadelphie. C'est la toute-puissance du style de Martha Graham. Utiliser son corps comme l'outil de l'expression d'une forme de langage, un langage pour exprimer l'émotion humaine, brute, implacable. Curieusement, cette vision de la danse, Martha la tient de celui qui faillit bien lui ravir cette extraordinaire destinée de danseuse, son père. Malgré lui, il aura joué un rôle pivot dans la carrière de sa fille, et à 2 reprises. Martha est née à Pittsburgh, en Pennsylvanie, le 11 mai 1894. Ses 2 sœurs cadettes et elle sont élevées selon des principes assez puritains. Le père, surtout, médecin aliéniste de son état, comprenait psychiatre, est opposé à l'idée que ses filles se donnent en spectacle. Mais il apprend une chose essentielle à sa fille, une chose dont elle fera sa devise de danseuse et de chorégraphe, le corps ne ment jamais. C'est lui encore, et sans le vouloir, qui sera à l'origine du coup de foudre de Martha pour la danse. En 1911, Martha a 17 ans lorsque son père accepte de l'emmener voir un spectacle de danse à l'Opéra de Los Angeles, où la famille vit alors depuis quelques années. Le spectacle met en scène une certaine Ruth Sandnes, une célèbre danseuse moderne de l'époque. Martha est subjuguée. Elle racontera plus tard que c'est ce jour-là que son destin s'est scellé. Mais pour l'heure, malgré ses supplications, ses parents refusent de la laisser étudier la danse. Tout juste accepte-t-il qu'elle entre dans un collège un peu hybride qui mêle études académiques et beaux-arts. Il faudra attendre le décès de son père en 1914 et la fin de son diplôme en 1916 pour qu'elle tente l'entrée dans une véritable école de danse. Ce sera l'école de son idole, Ruth Sandnes. Problème, elle a 22 ans. Elle n'est plus toute jeune pour une danseuse débutante. Et pour ne rien arranger, Martha n'a pas le physique de l'emploi. Elle fait à peine 1m60 et elle est un peu replète. Le mari de Ruth Sandnes, Ted Schoen, cofondateur de l'école, s'en souviendra plus tard en ces mots peu flatteurs. Il faut admettre qu'elle était assez ordinaire et qu'elle était en surpoids, pas vraiment grosse, mais courtaude et peu attirante. Pourtant, contre toute attente, il décide de lui laisser sa chance. Quelque chose dans sa rapidité intellectuelle et physique l'impressionne. La voilà lancée. 3 ans après son entrée à la Denishaw School, en 1920, Martha décroche son premier grand rôle dans un ballet aztèque, Xochitl. Au fil des mois, sa personnalité s'affirme. Martha Graham quitte l'école, travaille un temps comme danseuse dans une revue, puis enseigne dans une école pour arrondir ses fins de mois. L'enseignement la pousse à développer sa propre méthode. Une méthode qui traversa les décennies et deviendra la célèbre technique Graham. Une technique basée sur la respiration et sur les principes de contraction et de relâchement. En 1925, Martha fonde sa propre école de danse. Puis dans la foulée, sa compagnie, la mythique Martha Graham Dance Company, encore en activité aujourd'hui. De là, tout s'accélère. Et ses créations la rendent vite célèbre. Lamentation, en 1930, que je vous ai raconté. Puis, beaucoup d'autres ballets suivent. On compte 181 œuvres chorégraphiques au total. À chaque fois, Martha Graham explore de nouveaux thèmes, de nouveaux enjeux contemporains. La conquête des États-Unis dans Frontier, en 1935. La crise de 1929 avec Chronicle. La guerre civile espagnole dans Deep Song. Les rites religieux dans El Penitente. Et ce n'est pas fini, car sa carrière sera longue, mais très longue. Martha a dansé pour la dernière fois en 1969. Faites le calcul, elle est née, je vous l'ai dit, en mai 1894. Elle avait donc 75 ans. Elle dira à ce propos que plus que tout être humain, un danseur meurt 2 fois. La première physique, quand le corps puissamment entraîné ne répond plus. Ce corps qui ne répond plus est un déchirement pour Martha Graham. Elle sombre d'ailleurs quelque temps dans une dépression, mais il en faut plus pour abattre cette force de la nature. La revoilà en 1973, âgée de presque 80 ans, qui reprend les rênes de sa compagnie. Son succès ne se dément pas. Elle est une icône, une star parmi les stars. Elle en aura d'ailleurs côtoyé beaucoup au cours de sa vie, à commencer par des grands noms de la danse, bien sûr. Merce Cunningham, George Balanchine, Margot Fonteyn ou encore Rudolf Nureyev, considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands danseurs classiques au monde. Martha Graham, elle, n'est pas classique et ses élèves encore moins. Elle donne des cours à Liza Minnelli, Bette Davis, Woody Allen ou encore en 1978 à une jeune femme de 20 ans qui arrive tout droit du Michigan et qui s'appelle Madonna. Madonna a été mon élève. Elle m'a plu énormément. Elle est directe, elle arrive à ses fins et se fiche du tiers et du quart. C'est une non-conformiste. Elle ne fait que montrer sur scène ce que la plupart des femmes dissimulent, raconte-t-elle dans ses mémoires à propos de celle qu'elle avait surnommée Madame X parce qu'elle venait en cours chaque jour en changeant de style et d'apparence. Si la carrière de Madonna commence là, celle de Martha se poursuit encore et encore. La chorégraphe élabore toujours de nouvelles créations. Lucifer en 1975, puis sa version de Sacre du printemps d'Igor Stravinsky en 1984. Cette même année, à l'âge de 90 ans, Martha Graham est invitée avec sa compagnie à l'Opéra de Paris. Du jamais vu. Aucune compagnie de danse moderne n'avait eu ce privilège auparavant. Honneur ultime, mais pas dernier hommage. Martha meurt le 1er avril 1991 à l'âge de 94 ans. À titre posthume, en 1998, le magazine américain Time la désignera danseuse du siècle. Un siècle qu'elle aura quasiment traversé en entier et en dansant, s'il vous plaît.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Martha Graham, nous sommes avec une autre danseuse et chorégraphe. Bonjour Brigitte Lefèvre.
Bonjour.
Bonjour Brigitte Lefèvre. Après avoir dirigé l'Opéra de Paris pendant près de 20 ans, vous êtes désormais à la tête du Festival de danse de Cannes qui aura lieu en novembre prochain. Cette année, le festival rendra hommage à Martha Graham. Vous avez eu, vous, l'occasion de la rencontrer, bien sûr.
Eh bien, hélas et heureusement, oui. Je l'ai vue.
Pourquoi
parce que je dirigeais à l'époque une compagnie un peu d'avant-garde à La Rochelle et nous l'avions invitée avec le directeur du théâtre. Enfin, j'étais extrêmement impressionnée. Et aussi, ce qui m'avait beaucoup amusée, c'est qu'elle voulait vraiment être en scène. C'est-à-dire qu'elle ne dansait plus, mais il y avait un de ses danseurs qui la portait, qui la mettait sur le plateau. Le rideau était fermé, le rideau s'ouvrait, et là, c'était des baisers, c'était une espèce de cérémonial des saluts.
On aime bien, dans tous les domaines, dire un tel est le meilleur joueur de foot du monde. Est-ce que ça a un sens dans la danse? Le Time, on a dit, l'a élu meilleure, plus grande danseuse du XXe siècle. Est-ce que pour vous, c'est une distinction qui a un sens et qui est vraiment une meilleure danseuse? Qu'est-ce qu'elle avait de particulier?
Alors moi, j'aime pas du tout le meilleur. Parce que d'abord, j'aime la danse. J'aime beaucoup, beaucoup de danseurs, de danseuses. Mais enfin, elle, c'est quand même spécial.
Alors en quoi?
Elle, c'est spécial parce que, vous l'avez très bien décrit tout à l'heure, elle a fait école, elle a désiré faire école, si vous voulez. Elle a vraiment le style Graham et c'est extraordinaire. C'est très dur, moi j'ai dansé le style Graham, hein, mais mes hanches s'en souviennent encore. Hein.
Ah oui,
c'est très très difficile, mais c'est une école fondatrice, si vous voulez, et on ne peut bien danser ces ballets que si on maîtrise cette école. Donc elle l'a fabriquée. Et puis là, c'est amusant parce qu'on parle contracryliste, etc. Mais enfin, quand tu contracryliste, tout le corps, hein, et le sexe masculin ne pouvait pas danser contract release de la même manière.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, sa technique, restons corrects. La technique, c'est contract release, voilà. C'est-à-dire contraction, relâchement.
Et on contracte tout.
Ah oui, tout.
Tout.
Et on relâche tout. Et ça donne une possibilité de extraordinaire.
Oui.
Ça aide à l'accouchement.
Oui. Mais par contre, le style en soi, est-ce qu'on peut reconnaître d'emblée un style dans ses chorégraphies ou dans ses...
Alors c'est une chance de pouvoir le reconnaître et c'est un danger. Parce que faire du Graham, moi j'aime pas. Mais danser comme une espèce de résonance et de savoir et d'admiration, cette technique aussi difficile, ça en revanche est un honneur. Mais c'est difficile. C'est très très difficile. Et d'ailleurs, c'est amusant que toutes ces stars américaines, enfin voilà, avaient envie, je pense, de cette discipline-là. En fait, elle venait, et puis comme c'est tellement dur et que la seule star qui régnait chez elle, c'était elle, donc celle qui venait, ben, ça leur déplaisait peut-être pas d'être là au service de sa danse, en fait.
Alors, Martha Graham était une star de la danse, mais elle a aussi dansé avec des stars, et parfois, sans le savoir au départ, elle reste celle qui a fait danser Madonna en premier, Stéphane nous l'a raconté. Le pas de Madonna que l'on connaît, c'est à Martha Graham qu'on le doit?
Ah, ça je sais pas. Ça je sais pas, mais c'est forcément une source d'inspiration, hein. Et puis Madonna, moi, on fait partie tous avoir vu ces spectacles. Il y a une discipline de fer, quoi.
Oui, il y a du pentagramme chez Madonna. Ouais. Elle a gardé ce côté bosseuse, quoi.
Ça bosse, quoi.
Ça contracte.
Elle devait être des spots, non?
Oui, elle l'était. Elle l'était, et je pense que c'est peut-être obligé. Et c'est vrai que ça m'amuse maintenant. Peut-être que maintenant, on supporterait pas, si vous voulez. Et d'ailleurs, il y a une directrice qui a repris le flambeau, parce que vous vous rendez compte que cette compagnie qu'elle a créée dans des conditions que vous avez très très bien décrites tout à l'heure, elle continue. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu rendre hommage à Martha, bien sûr, mais également à la troupe et à tous ces danseurs de venir danser. C'est eux qui inaugurent le Festival de danse de Cannes le 27 novembre. Et elle a vraiment des disciples. Je veux dire, c'est pas simplement des gens qui admirent et qui, c'est pas des stars qui viennent voir des stars. C'est ça aussi, puisque c'est la réalité. Mais c'est des disciples, et elle, c'est la grande prêtresse, hein. J'adorais la voir danser, parce qu'on la voit danser dans des films. Et il y a un moment que j'adore, elle a une espèce de chignon absolument incroyable, avec des espèces de peines qui traversent ce chignon, et elle dit ce qui est le plus important dans la danse, c'est simplicity, comme ça. Alors j'adore ça, parce que pour elle, ce qui est tellement abouti, c'est simple, en fait. Oui. C'est sa vie, c'est elle. C'est vraiment une femme absolument remarquable, mais qui a dû être un tyran.
Longtemps, la compagnie de Martha Graham n'a accueilli que des femmes. Oui. C'était un choix volontaire de sa part. Elle était féministe, résolument.
Alors moi, je crois que d'abord, il y a beaucoup de... D'ailleurs, c'est pas bien, d'ailleurs, que beaucoup de femmes sont plus attirées par la danse, qu'elles soient modernes ou classiques. Ça a beaucoup bougé, notamment avec le hip-hop et tout ça. Bon. Mais la danse classique aussi. Et en fait, elle a commencé avec ses élèves. Elle a commencé à mettre en pratique avec ses élèves ce qu'elle sentait, ce qu'elle voulait. C'était très psychanalytique aussi, hein, ce qu'elle faisait. Il y a les grands mythes grecs. Enfin, elle a dansé Clytemnestre, elle a dansé Yoka, elle a dansé... Bon. Et au début, c'était avec ce qu'elle avait sous la main. Enfin, ce qu'elle était. Puis progressivement, les hommes sont venus. Mais je pense qu'elle était moins à l'aise. D'abord, dans sa technique, la contractée. Oui. Mais il y a quand même eu des formidables. Moi, je me rappelle, il y a des photos de Merce Cunningham que l'on voit, et des films où on le voit dansant. Il était un merveilleux danseur. Et je crois qu'il n'aurait pas pu faire la technique qui a été la sienne, et aussi structurée. C'est un immense chorégraphe danseur, s'il n'avait pas travaillé avec Martha. Mais alors, féministe, oui. Mais je dirais par rapport à elle, par rapport à l'image de la femme, si vous voulez. Oui, c'est des personnalités comme ça montrent à quel point une femme, la femme, est indispensable à l'homme et à la société et à l'art, parce qu'un homme n'aurait pas pu faire ce qu'elle faisait.
Stéphane le racontait, Martha Graham explore aussi les événements historiques dans ses créations. Comment on fait pour représenter à travers une chorégraphie le krach de 29, par exemple? Les danseuses s'effrontent sur scène, comment ça se passe?
Non, et d'ailleurs, je reviens à mon festival, pardon, je suis en plein dedans, en train de le préparer, et j'ai pris l'affiche. Je voulais que ce soit la Terre qui soit là, enfin bon, je la joue courte, et en fait, après toute cette période Covid-est, j'ai choisi une danseuse de Martha Graham dans une espèce de résistance, mais pas une résistance agressive, une résistance, voilà, là, plutôt contracte que réaliste. Et en fait, c'est ça aussi, je veux dire que c'est une énergie, si vous voulez. Comment on fait pour résister? Comment on fait pour, voilà. Et puis, il y a le groupe est ensemble, il y a la musique. Moi, on ressent les choses, mais il faut venir voir la danse. Venir la voir, il faut la ressentir, il faut la voir. J'ai beaucoup de mal à l'expliquer, et même parfois, ceux qui l'expliquent le mieux, c'est ceux qui la connaissent le moins bien.
Mais il y a une chose qui nous fascine dans le destin de Martha Graham, c'est que d'abord, elle a été une immense danseuse, et qu'au moment où son corps lâche, parce que, bon, il y a un moment où elle parlait de la première mort, il y en a deux, mais c'est la première, eh bien, à l'âge de 75 ans, elle arrête de danser, mais elle continue. Elle continue à travailler.
Ah mais bien sûr, parce que c'est qu'elle... on comprend ça. Ne plus être dans le studio, ne plus sentir cette odeur âgre, la transpiration du travail, de l'effort, du corps qui se déploie, qui se resserre. C'est horrible. C'est quand on a eu la chance, c'est presque une drogue, si vous voulez. Et elle était... D'ailleurs, c'est très beau ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est d'ailleurs elle qui le disait, le corps ne ment pas. Donc, elle voulait pas faire mentir son corps à travers sa danse après 75 ans. Elle aurait peut-être dû continuer. Et puis, aussi, j'adore son bouquin, là. Elle a écrit un livre sur ses mémoires. Et ça commence, « Je suis danseuse ». Et ça, je trouve ça formidable. Pour toutes les danseurs, les danseuses, « Je suis danseuse ». C'est à la fois formidable et très simple.
Bien, pour les découvrir sur scène, les les membres de la compagnie Martha Graham Dance Company, il faut aller à Cannes à l'occasion de votre festival, Brigitte Lefèvre. Festival de danse de Cannes, c'est à partir du 27 novembre prochain. Voilà, merci d'être venu nous parler à la fois de votre festival de danse et puis de Martha Graham.
Alors, si je peux rajouter, il y a 28 spectacles et les femmes sont très à l'honneur. On évoque Isadora Duncan, évoque...
Ah la Côte d'Azur, lui, de
voilà, ça ne lui a pas réussi. Caroline Carlson, pour l'instant, tout va très bien.
Tout va bien, oui.
Louise Le Cavalier, enfin, les femmes sont à l'honneur, mais comme on aime bien les hommes, ils sont là aussi.
Ils sont là aussi, en tout cas, ils seront dans le public pour admirer. Merci beaucoup,
Brigitte Lefèvre.
Et chers auditeurs, si vous souhaitez en savoir davantage sur Martha Graham, je vous conseille la lecture de son autobiographie « Mémoire de la danse » disponible aux éditions Actes Sud.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires qui ne fanent jamais. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous poussez les portes des jardins du Sénat pour découvrir de jeunes pousses, mais aussi de vieilles branches. Bon, forcément, au Sénat, on a l'image qu'on en a.
Savez-vous, les garçons, quel est le mot français pour désigner ce qui ne fane jamais? C'est un très beau mot. C'est le mot...
Imputrescible, non
Immarcessible.
Immarcessible.
C'est beau. Ah, oh, c'est beau. Alors oui, le Sénat, vous avez raison, il a ses stars et ce ne sont pas les sénateurs, mais les orchidées cultivées avec amour dans les serres du Jardin du Luxembourg. Et ces serres existent depuis 1796, mais les orchidées n'y sont cultivées que depuis 1838. Donc c'est une collection magnifique, plus de 10 000 pots appartenant à 150 genres, soit plus de 1350 cultivars, hybrides et espèces d'orchidées tropicales différentes, répondant entre autres au doux nom de Lycaste, Skinneri, Peristeria, Elata ou encore Schomburgia superbiens. On dirait des maladies de peau,
oui,
dites donc.
Alors,
d'après l'un des jardiniers rencontrés sur place naguère, la plus vieille orchidée conservée dans ses serres serait un drageon. Alors, pour ceux qui ne maîtrisent pas le vocabulaire de la botanique,
oui,
un drageon, un rejeton, si vous voulez, un rejeton d'une orchidée de 1859. Donc, une orchidée contemporaine de Napoléon III. C'est beau, parce que c'est comme si cette fleur n'avait cessé de fleurir depuis le Second Empire. Malheureusement, on ne possède plus aucune archive concernant cet aïeul, mais il y a quand même, on connaît parfaitement le pédigré de la doyenne des orchidées. Elle date de 1880. C'est beau, non? Alors, oui, je sens votre émotion. Mais vous ne trouvez pas que c'est émouvant parce que c'est vivant une fleur? C'est-à-dire que sa grand-maman, cette orchidée, était là en 1880. Bon, écoutez, en tout cas, sachez, si vous voulez planter des orchidées, ça se fait sur carré de couche, c'est-à-dire sur un mélange de feuilles ramassées à l'automne dans le jardin et de fumier récupéré dans les casernes de la garde républicaine et toutes les fermes équestres de la région parisienne. Car le fumier de cheval, il faut le savoir, possède un pouvoir calorifuge bien supérieur aux autres. Alors, on n'utilise pas non plus n'importe quel terreau, on fait un terreau particulier qui s'appelle le terreau national. Eh ben oui, la collection de nos orchidées, il lui faut bien ça. Alors rien n'est trop beau pour elles, elles sont de vraies stars, chouchoutées, délicatement pollinisées à la main, éclairées par des lampes à sodium. Et pour favoriser une croissance harmonieuse de ces fragiles demoiselles, on leur fait écouter de la musique classique et uniquement. Et à ce régime-là, il faudra tout de même attendre parfois jusqu'à 4 ans avant d'avoir la première fleur.
Ah non ?
Rien à voir donc avec les hortensias de la serre d'à côté. Eux, on force la pousse afin d'aller au plus vite agrémenter les réceptions des sénateurs. Alors elles écoutent Virgin Radio toute la journée. Parce que là, il faut que ça pulse pour les hortensias. Non, mais c'est absolument authentique. Hein. La musique n'est pas la même. Les stations de radio ne sont pas les mêmes pour les orchidées. Et si vous voulez, en sorte, il y a une sorte de sous-prolétariat de la botanique. Et là où les hortensias, les orchidées plutôt, occupent le haut du pavé, et sont même classés collection nationale, pour le menu fretin, c'est du rock, du disco, et voilà. Bon, alors, d'ailleurs, à propos, Stéphane, est-ce que ce patrimoine botanique fait partie de vos préoccupations?
Absolument.
Hein, c'est vrai?
Je suis allé visiter les serres.
Ah, bon, c'est beau,
sénateurs.
C'est un bel endroit. Alors,
oui.
Bon, pour le côté moins poétique de la chose,
ils devraient les vendre, d'ailleurs, un peu. Pas les serres, mais ils devraient vendre des pots, parce qu'ils en ont plein.
Mais je crois qu'ils en vendent de temps en temps. Il me semble qu'il y a une
Ça sert surtout pour comment dire, agrémenter les palais de la République.
C'est pour nous, d'une certaine manière, nous sommes
quand
tous...
Quand on en profite, c'est long.
Voilà. Alors, vous vous souvenez quand même, messieurs, de la signification du mot orchidée en grec, hein, parce que ça, on l'avait vu avec l'histoire de la...
redites-le quand même.
C'est le mot testicule en grec, orchis. On avait parlé déjà ici de la mono-orchidie de Franco et d'Hitler. Hein. Donc, pas grand-chose à voir avec les orchidées, sauf que c'est la même étymologie. Alors, les orchidées peuvent, hélas, exhaler des odeurs très fortes c'est pour attirer les insectes et les papillons. Souvent des odeurs un peu pharmaceutiques, mais l'une d'elles sent le minster. Alors, vous voyez, oubliant en quelques instants ces précieuses orchidées, quand j'avais visité les serres, moi je ne sais pas si vous avez rencontré la même personne, Stéphane, mais le chef jardinier que j'avais rencontré à l'époque m'avait raconté qu'on conservait ici même, probablement depuis la fin du 19e, un pied de papyrus égyptien. Et lorsque l'on s'est rendu compte, il y a de cela quelques années, que le papyrus égyptien était contaminé par une maladie comme celle qui depuis des années ronge nos platanes, c'est à partir de ce plant conservé dans les serres du jardin du Luxembourg que l'on a réimplanté le papyrus en Égypte. Enfin, j'espère en tout cas que cette histoire était vraie parce que c'est une belle histoire. Écoutez, si vous voulez poursuivre cette promenade à la rencontre des arbres les plus vénérables, eh ben, il vous suffira de descendre le boulevard Saint-Michel jusqu'à Notre-Dame. Et là, devant la petite église Saint-Julien-le-Pauvre, l'une des plus vieilles églises de Paris, il y a un petit square et c'est là que se trouve le plus vieil arbre de Paris, envahi par le lierre, soutenu par un pilier de béton. C'est un faux acacia qui a plus de 400 ans. On l'appelle aussi robinier, du nom de Jean Robin, botaniste d'Henri IV, qui planta le premier d'entre eux. Il y en a deux qui sont encore debout. Ils ont connu Henri IV, ces deux arbres, celui de ce petit square René Viviani et du Jardin des Plantes. Il y a des traditions comme ça qui ne se perdent pas dans Paris. Par exemple, devant l'hôtel de la Reine Margot, il y a toujours un figuier, rue des Figuiers, un orme devant Saint-Gervais. C'est comme ça. Et un marronnier, là où Boileau avait planté le premier marronnier parisien. C'est une belle tradition. Une tradition qui s'est perdue en revanche, c'est que jusqu'à la guerre de 14, tout le produit de la taille des arbres parisiens était intégralement distribué aux pauvres. Qui sait, hélas, ce que deviennent nos vieilles branches aujourd'hui, à part nous qui sommes ici présents.
Vous le savez, vous, Stéphane, ce qu'on fait bois coupé ?
Non.
Comme quoi, vous ne savez pas tout ?
Mais non, je ne sais pas tout.
Comme nous allons encore vérifier.
Il faut demander à la maire de Paris de faire quelque chose.
Visiblement, vous avez des grilles.
Oh, ça doit être transformé. Je ne pense pas qu'à notre époque, tout est recyclé. Je pense que ça doit être déchiqueté, mis en copeaux et servir pour des chaudières tout à fait éco-responsables.
Beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses. C'est le quiz à suivre sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
C'est l'heure du quiz, moment de plus en plus ingérable pour l'arbitre neutre que je suis. J'ai sorti des cartons jaunes, j'ai sorti des cartons rouges. La prochaine étape, je vous l'annonce, c'est l'interruption du match. Alors Stéphane, de grâce, on n'insulte pas l'adversaire pour la déstabiliser. Un mot fair play à l'attention de Clémentine.
Elle est positivement folle.
Parfait, jouons sereinement à Born to be Alive. Stéphane, la première question est pour vous. Parce que historiquement vôtre, c'est aussi l'occasion de mener des combats. Je l'affirme debout, enfin assis, mais debout. La guerre, c'est mal. Mais parfois, c'est quand même assez étonnant. Durant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de noms d'opérations militaires bizarres. Je vous en propose trois. À vous de me donner la fausse. Opération œuf de Pâques, opération centrifugeuse ou opération tungstène. Laquelle de ces opérations n'a jamais existé ?
Il y a eu une opération chair à pâté aussi.
Centrifugeuse.
Chair à pâté, Overlord. La centrifugeuse.
Ouais. C'est peut-être en anglais, ça devait être en anglais.
Tungstène, centrifugeuse ou œuf de Pâques.
Je sais pas, centrifugeuse, je dirais.
Ça, c'est la fausse.
Ouais.
Vous avez gagné.
C'est une bonne réponse,
bravo,
Stéphane.
Quelle intuition.
D'opération centrifugeuse. L'opération œuf de Pâques a été menée par le Reich. Elle consistait à organiser un assassinat d'Eisenhower aux États-Unis. Quant à l'opération Tungsten, c'était un raid aérien des Anglais en 1944. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. On peut dater l'apparition et la généralisation du cercueil au XIIIe siècle. Avant ça, on avait d'autres coutumes avec le défunt. On le rasait, si c'était un homme. On cousait le linceul autour du corps. Corps qu'on avait lavé avec du vin. Vrai ou faux ?
Oui, c'est vrai.
Il n'y a pas de raisonnement. Il y a comme ça, vous crachez la réponse.
Ça, la culture.
Non, écoutez, allez, voilà. Pour une fois que je fais bref, vous n'allez pas vous en plaindre.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Vous avez gagné.
Et c'est une très bonne réponse. Le vin faisait souvent office de désinfectant à l'époque. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. 1864, c'est aux États-Unis la bataille de Spotsylvania, une des batailles les plus meurtrières de la guerre de sécession. Le général Sedgwick a été tué à cause des tireurs embusqués situés à 900 mètres de lui. Sa dernière phrase fut « Ne vous mettez pas à l'abri, ils vont penser que nous avons peur. » Vrai ou faux ? Pauvre général.
C'est pas mal, oui, ça aurait de...
Et puis c'est bien ça, de c'est certains hauts gradés, ça, de tenir des propos tout à fait
péremptoires.
Et... Vous le sentez comme ça,
je le sens comme ça. Bon, je peux me tromper, mais bon.
Vous avez perdu.
C'est faux, Stéphane. Il a dit « Arrêtez d'esquiver les balles, il ne pourrait pas toucher un éléphant à cette distance. » Quelques secondes plus tard, il en prenait une fatale dans l'œil gauche.
Question. C'est du même genre. Franchement, oui, cette question est nulle. Regardez, avant la guerre de 70, quel est ce général qui disait « Nous sommes prêts, archi prêts, il ne manque pas un bouton de guerre, allez, on y va. » Et puis on a pris la pâtée. Non,
c'est beau de prendre la défense comme ça de votre adversaire. Ça témoigne d'un certain fair-play.
Cette question n'est pas...
Vous allez gagner, ça me fait très plaisir, Clémentine.
Oui, c'est ça. Oui.
Question numéro 4.
Après, c'est moi qui prends, en dehors du studio.
Ah bon, par qui?
Par vous.
C'est-à-dire? Qu'est-ce qu'il fait?
Je me fais engueuler quand j'ai gagné.
Mais ça, je ne savais pas, Stéphane.
C'est pas vrai. Elle ment en allemand.
Dis donc, vous me traitez de folle. Ça
non,
suffit.
Menteuse. Elle ment en allemand.
Question numéro 4. Clémentine, c'est pour vous. On l'a dit, historiquement vôtre, c'est aussi des combats et des prises de position. Je le dis et je le répète, la guerre, ce n'est pas joli, mais parfois c'est chelou. Même principe pour vous que pour Stéphane tout à l'heure.
Aïe.
Trois noms d'opérations qui ont eu lieu durant la Seconde Guerre mondiale. Quelle est l'opération qui est le fruit de mon imagination? L'opération coup de pelle, l'opération abstention ou l'opération catéchisme?
Ah, dites donc, coup de pelle. Coup de pelle, ça me plaît bien. Abstention, catéchisme. Catéchisme, ça peut aussi être une façon de dire on va vous apporter la bonne parole. C'est pas mal comme façon Torquemada. Ah, c'est pas mal, catéchisme. Coup de pelle, moi je dirais abstention. Parce que c'est bizarre d'imaginer une opération où on s'abstiendrait de faire quelque chose. Ah.
Ah là, je retrouve la Clémentine qu'on aime. Celle qui laisse des silences pour bien réfléchir.
Mais tout me plaît bien comme nom d'opération.
Ah oui, mais il faut choisir la fausse.
Coup de pelle, abstention, catéchisme.
Celle qui n'a pas existé.
Disons abstention.
Vous avez...
Et c'est une mauvaise réponse, c'est celle que j'attendais pour pouvoir procéder à la cinquième question. La fausse, c'est l'opération coup de pelle qui vous plaisait tant, elle n'a pas existé. L'opération abstention, c'est l'invasion d'une île italienne par les Anglais en 1941. L'opération catéchisme est un raid aérien également britannique sur un cuirassé allemand en 1944. Question numéro 5, attention, dans les starting blocks, Clémentine, Stéphane, 1750, c'est à partir de cette date qu'est apparue la chanson du bon roi Dagobert. Le célèbre roi des Francs est né en 602 ou en 605 selon les historiens.
Non,
les
629 ou 39.
Les couplets ont été écrits au fil du temps. En revanche, la musique vient d'un air connu. Mais quel était le nom de cet air? Trois propositions. Voici la Saint-Jean, le passage du Grand Cerf ou les bassins d'Irlande.
Le 1.
Voici la Saint-Jean. Vous avez dit un, tous les deux. Je vous donne l'opportunité de notre réponse. Oh, Stéphane, il est la mémoire de la musique française. La mémoire vivante. Le passage du Grand Cerf, je vous propose d'écouter tout de suite cette musique formidablement interprétée pour l'occasion par le 27e bataillon des chasseurs alpins. Ça vous met des frissons, ça, hein?
Je trouve pas que ça ressemble beaucoup au roi Dagobert, hein.
Et là, évidemment, tout le monde voit le rapport avec le roi Dagobert. Et moi, je dois me débrouiller avec ça. Eh bien, oui, c'est magnifique. Oui, on aura reconnu, bien sûr. Bien sûr, le bon roi. Oui, a mis sa culotte à l'envers. Bien sûr, c'est exactement ça. On enchaîne. Bravo. Bravo, Stéphane. Vous avez remporté le quiz.
Oui, il ne faut pas où la main. Où les mains. Par contre.
Oh, vous aimez bien cette phrase.
Vous adorez la vénerie, je le sens.
h 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Oui, vous êtes au cœur d'Historiquement vôtre. Pardonnez ma surprise, mais avec Stéphane, on esquissait quelques pas de tango. Comme ça, au débeauté.
Je sais pas, c'est super.
Non, Stéphane, on le remontera plus tard, on n'est pas encore prêt. Mais pourquoi dansions-nous le tango?
Eh bien, parce que cet après-midi, on réunit trois personnages qui ont dansé avec les stars. Après Martha Graham, je vous invite à Versailles pour une teuf qui claque sa mère sur le dance floor, Jean-Baptiste Lully.
Wesh mon Bernie, ça dépote ton queutru. Moi à côté c'est soft. Si vous êtes fan de Danse avec les Stars, vous vous demandez peut-être qui est le monsieur qui de temps en temps bondit de sa chaise en hurlant. Ben c'est Chris Marquez. À travers son parcours, je vous raconte comment on devient coach pour stars voulant danser à la télé. C'est niche, mais évidemment il y a des débouchés.
Sans oublier nos célèbres chroniqueurs, David Castel-Lopez, qui nous raconte les origines d'une invention, et là c'est le point d'exclamation.
Exactement, le point d'exclamation.
Il y a un mec un jour, un type qui s'est dit,
c'est un petit peu dur d'être aussi catégorique que ça, mais en tout cas il y a quelqu'un qui dit qu'il l'a inventé.
Ah oui,
oui. Ah oui.
Le père du point d'exclamation. Olivier Poul, c'est avec nous aussi Stéphane.
Oui, oui. Et distribution, regardez, hop. Un petit nougat.
Il y en a de moins en moins dans votre boîte.
Un petit nougat et hop, un petit nougat.
Merci.
Voilà, les nougats de Montélimar.
Je vous rappelle qu'en régie, c'est l'affolement général. Ils font de grands gestes. Pourquoi ? Vous trouvez qu'on fait trop de bière avec les nougats ?
Ils aimeraient.
Ils en veulent !
Ils en veulent !
Oh non, il y a une vitre ! J'avais oublié qu'il y avait une vitre. Enfin, après la parenthèse comique de l'anniversaire de David, retour à la normale. Aujourd'hui, dans la lutte finale, je devrais remporter assez facilement cette édition du quiz. Surtout si les questions portent sur l'univers de la danse. Mais d'abord, suivons Stéphane, donc à Versailles, retrouver un homme qui a vraiment dansé avec les stars, et pas n'importe lesquels, un certain Louis XIV notamment. Stéphane nous raconte Jean-Baptiste Lully.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Nous sommes à Paris le 23 février 1653. Au théâtre du Petit Bourbon près du Louvre se joue la première d'un spectacle qui restera jamais dans les annales, le Ballet Royal de la Nuit. L'événement est de taille, il symbolise le retour en force du pouvoir royal, la fronde est moribonde. Dans la salle, toute la cour est présente, la reine, le cardinal Mazarin. C'est un spectacle hors du commun par sa durée d'abord, 12 heures. Par sa splendeur ensuite, des décors somptueux, des costumes flamboyants, une machinerie de théâtre spectaculaire. La magnificence de la représentation est telle que son écho est parvenu jusqu'à nous à travers de nombreux témoignages, dont celui-ci paru dans la Gazette de France. La représentation a été composée de 43 entrées, toutes si riches tant par la nouveauté de ce qui se représente que par la beauté des récits, la magnificence des machines, la pompe superbe des habits et la grâce de tous les danseurs. Il y a du beau monde sur scène, en effet, des danseurs professionnels, mais aussi des personnalités de la cour. Monsieur, frère du roi, le duc d'York, son cousin Germain, le duc de Buckingham, il y a quelqu'un d'autre aussi, presque méconnaissable, tant les costumes qu'il porte sur scène sont extravagants, Louis XIV lui-même. Je cite encore la Gazette de France. « Les spectateurs auraient eu bien du mal à discerner lequel était le plus charmant ? Si notre jeune monarque n'était pas moins reconnaissable sous ses vêtements que le soleil l'est au travers des nuages qui voilent sa lumière. C'est beau, n'est-ce pas ?
C'est sublime, Louis XIV.
Déjà flamboyant, dans un incroyable costume évoquant les rayons du soleil, il n'a que 15 ans. Il est alors à l'aube de son règne. C'est aussi le cas d'un autre danseur présent sur scène ce jour-là, un figurant. Oh, pour l'instant, un inconnu. Il a 20 ans. C'est un Italien. Il deviendra bientôt Jean-Baptiste Lully. Mais pour l'heure, il s'appelle encore Giovanni Battista Lully, avec un I. Il est un jeune homme issu d'un milieu modeste. S'il est présent ce soir de 1653 dans la salle du Petit Bourbon, c'est du fait d'un concours de circonstances et d'une certaine ténacité, il faut bien l'avouer. Lully naît en 1632 à Florence, 6 ans avant la naissance de Louis XIV. Son père est meunier, sa mère fille de meunier. En 1645, il a 13 ans lorsqu'il est repéré lors d'un voyage par Roger de Lorraine, le chevalier de Guise. L'homme n'est pas n'importe qui, il est l'oncle de Mademoiselle de Montpensier, la grande mademoiselle, cousine germaine du roi. Sachant sa nièce désireuse de parfaire son italien, il fait venir le jeune homme à Paris. Lully se retrouve d'abord consigné à la cuisine. Oui, la cuisine, car dit-on, Mademoiselle de Montpensier le trouve trop laid pour être garçon de chambre. Elle aura vite fait de changer d'avis, car le jeune Lully se montre très vite excellent musicien, chose à laquelle la grande mademoiselle attache beaucoup d'importance. Dans le petit orchestre privé qu'elle entretient chez elle, il se perfectionne au violon, au clavecin et à la composition musicale. « La compagnie des violons de mademoiselle, raconte-t-on à l'époque, joue mieux que les 24 violons du roi. » Puis vient la fronde et la disgrâce de la frondeuse Montpensier. En 1652, le jeune Lully prend donc ses distances. C'est ainsi qu'il se trouve, quelques mois plus tard, introduit lors du fameux ballet royal de la nuit. Il est engagé en tant que baladin, nom de l'époque pour désigner un danseur de théâtre, car c'est également un art que Lully pratique adroitement. C'est, semble-t-il, à cette occasion qu'il fait pour la première fois la rencontre du roi. Louis XIV, passionné de danse et de musique, se prend tout de suite d'admiration pour Lully. Les deux jeunes gens deviennent alors de très proches amis. Lully entre à la cour, il y fait une ascension fulgurante. Il faut dire qu'il excelle non seulement en musique et en danse, mais aussi dans l'art de courtiser. On le dit terriblement ambitieux. Très rapidement, le roi lui confie la direction d'un nouvel ensemble, la bande des petits violons. Puis il devient l'un des compositeurs de la chambre, comprenez, l'un des musiciens qui écrit la musique de divertissement à la cour. Mais en réalité, lorsqu'il s'agit de musique, Lully est partout. Le roi le consulte dans toutes ses décisions, il est présent à ses côtés lors de toutes les représentations. Puis en 1661, c'est la consécration. Lully devient surintendant de la musique du roi. Mazarin vient de mourir, Louis XIV a enfin les mains libres et il entend en faire profiter son ami. Cette même année, Lully est donc naturalisé français. De Giovanni Battista Lully avec un I, il devient Jean-Baptiste Lully avec un Y. Dans le film qui est consacré à leur amitié, Le Roi danse, sorti en salle en 2000, Louis XIV lui fait cette promesse dès ce fameux soir de 1653 sous la scène du Petit Bourbon.
Qu'est-ce qui te fera plaisir ?
Devenir français, sire. Il n'est pas bon d'être italien à Paris aujourd'hui. Mon cœur est tout français sur l'autre jour. Reste juste la langue, elle résiste. Mais s'il plaît à votre majesté, j'ai pu la couper. En vérité, elle ne sait ni à jouer la musique, ni à danser. Oui, vraiment, je dois la couper.
Désormais français, Lully prend enfin son envol. Il règne en maître absolu sur la musique du royaume et impose son style. Un style caractérisé par un ardent désir de faire briller le roi et la monarchie française. Comme lors du Grand Carrousel, organisé en juin 1662 au Palais des Tuileries, et lors duquel Louis XIV adopte définitivement la figure du soleil comme emblème. À partir de 1664, il collabore avec un autre Jean-Baptiste, Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, un genre nouveau de spectacle, la comédie-ballet, qui allie chansons, théâtre et danse. On en connaît tous l'exemple le plus célèbre, le bourgeois gentilhomme. Mais la collaboration entre les deux hommes finira mal. Les deux Baptistes, comme on les appelle à l'époque, se brouillent. En 1672, Lully s'est fait élire à l'Académie royale de musique et il obtient le monopole du théâtre en musique. De quoi fâcher Molière. À la même époque, Lully se met à composer des tragédies lyriques, ce pourquoi on le considère aujourd'hui comme l'inventeur de l'opéra français. Il en écrira 14 au total, dont son chef-d'œuvre, Armide. Il l'écrit en 1686, il a alors 54 ans. L'apogée de sa carrière est alors derrière lui. L'année précédente, sa relation avec un jeune homme a fait scandale. Bien que marié et père de 6 enfants, Lully est bien connu pour ce qu'on appelle à l'époque ses mœurs italiennes. Il tombe alors en disgrâce. Il mourra à peine 2 ans plus tard, à cause, pourrait-on dire, de son amour du roi et de la danse. Un jour qu'il répétait pour un tédéum, un hymne chanté qu'il espère présenter au roi, furieux de ne pas obtenir ce qu'il veut de ses musiciens, il se frappa malencontreusement l'orteil avec son bâton de direction. La blessure s'infecte, il faut amputer. Lully refuse, un danseur n'est rien sans sa jambe. L'issue de ses décisions lui sera fatale. Lully canne le 22 mars 1687.
C'est joliment dit, Stéphane.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Jean-Baptiste Lully, nous avons le plaisir d'accueillir la soprano Véronique Gens. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Bonjour Véronique Gens, vous êtes l'une des meilleures interprètes du répertoire classique français. Et dans ce répertoire, forcément, Lully est là. C'est un extrait de votre nouvel album « Passion ». Ah, c'est difficile de vous couper.
C'est sacrilège.
Je me sens.
Non, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Sinon, on est là pour. Il dure combien de temps le disque? Je sais plus.
Qu'est-ce que ce grand compositeur de Lully représente pour vous? C'est une passion, justement?
Justement, oui, c'est ça. C'est une. Quand j'étais une jeune chanteuse, j'ai commencé par, justement, par chanter Lully. Et j'ai absorbé tout ce qu'on a bien voulu m'apprendre à propos de cette façon de chanter Lully et de cette tragédie mise en musique par Lully avec l'importance du texte, avec ses grandes déclamations, avec ces grandes tragédies. Et ça a été vraiment, pour moi, un crève-cœur, si je puis dire, d'arrêter de chanter cette musique, puisque j'ai dû montrer à la terre entière que j'étais capable de chanter autre chose. C'est pour pas être cataloguée, vous savez, on aime bien cataloguer les gens dans un répertoire ou dans un style. Donc, j'ai volé de mes propres ailes pendant quelques années. Et vraiment, maintenant que j'ai la possibilité de le faire, je reviens à cette musique qui fait partie de mon, qui coule dans mon sang. Enfin, je sais pas comment dire, qui m'émeut, qui me touche énormément et sans laquelle je suis, très, très triste et très malheureuse, en fait.
Vous l'avez dit, donc la musique et l'importance des textes. Stéphane le disait, Lully est considéré comme l'inventeur de l'opéra grâce à ses tragédies lyriques. Qu'est-ce qu'on pouvait voir précisément sur scène à l'époque pour bien se rendre compte? Ça ressemblait à quoi?
Ces spectacles étaient complètement dingues, complètement grandioses, avec, comme vous le disiez tout à l'heure, des costumes complètement improbables, avec des moyens exceptionnels, des décors qu'on montait, des grandes tentures. Enfin, c'était une machinerie incroyable. Il y avait une
super production, en
absolument,
fait.
Absolument, absolument. Oui. Maintenant qu'on a du mal à assumer, je crois.
Oui, Atti, ça a été un grand moment aussi Atti, en production parce que
voilà, c'est ça. Mais c'était colossal. En même temps avec des changements de décor très simples comme il se faisait à l'époque, avec des tentures qu'on descendait, des rideaux qu'on faisait tomber, ça faisait un effet incroyable. C'était vraiment des grands moments et tout le monde était là, les gens très simples comme les gens très riches avec des costumes incroyables et Lully était là toujours au départ. C'était lui qui dansait beaucoup avec le roi, comme vous disiez aussi, puisque c'était important pour lui de danser et de se montrer près du roi et de montrer qu'ils étaient copains. Mais à partir du moment où il est devenu directeur de l'Opéra de Paris, là, il dansait beaucoup moins. Et comme le roi a arrêté de danser à ce moment-là aussi, c'était moins intéressant. Mais donc, il est devenu compositeur et il a composé tous ces grands opéras et toutes ces grandes tragédies lyriques dont on parlait tout à l'heure. Mais surtout en faisant régner un climat de terreur. Enfin, il était vraiment omnipotent. Il était complètement mégalo, je crois qu'on peut le dire maintenant. Il supportait aucun autre compositeur. Il avait beaucoup d'élèves, mais qu'il a complètement écrasé le temps qu'il était
Mais justement, c'est un peu l'ombre du soleil, là, en quelque sorte. C'est que Lully a écrasé beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'il a régné vraiment au grand siècle, si bien qu'il a fait de l'ombre à beaucoup de monde, à beaucoup d'autres compositeurs qui sont un peu passés sous silence, alors qu'ils méritent autant notre intérêt.
Absolument. On parle de Colas, de Desmarais, de Clérambault, tous ces gens qui étaient au départ, qui étaient ses élèves et qui n'osaient pas être plus forts se manifester plus que leur maître. Dès que Lully est mort, tous ces gens ont explosé et ont enfin
le seul qui a vraiment dont on se souvient, c'est Marc-Antoine Charpentier d'abord, parce qu'on lui doit le Tédéum qui sert pour l'Eurovision.
Et ça, c'est pas rien, Stéphane, c'est
il l'a fait en fonction. Il savait qu'un jour, il serait immortalisé.
C'est qu'il pourrait le sortir.
Mais que vous interprétez, Colas, Desmarais,
voilà,
qu'on trouve
c'est
aussi
ça.
Dans votre album. Hein.
C'est ça, c'est des compositeurs qui ont enfin pu s'exprimer et que maintenant enfin, depuis le renouveau de cette musique baroque en France, retrouvent enfin leur lettre de noblesse, puisqu'on a retrouvé toute cette musique dans les bibliothèques qui dormait complètement et qui avait été très peu interprétée.
Vous-même, vous avez été révélé grâce à votre rôle de Cybèle dans la tragédie lyrique Attis dont on parlait, de Lully. Il y a une pression particulière en interprétant des musiques de noms illustres comme ça?
Mais en fait, ce qui est formidable, c'est que quand on a fait cet Attis de Lully, c'était il y a quand même quelques années maintenant, je chantais juste dans les chœurs en fait. J'avais pas de rôle. J'étais vraiment une très jeune chanteuse. Mais la pression, en fait, il n'y a pas de pression puisque tout est à faire, tout est à montrer. Alors évidemment, on ne chante pas ça n'importe comment. Il y a tout un tas d'indications à propos de la façon dont chantaient les gens à l'époque. Il y a eu tout un tas de gens qui ont fait des recherches. Enfin, c'est le propre de ce renouvellement de la musique baroque qu'on chante maintenant comme ça. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il n'y a aucune référence.
Il n'y a aucun enregistrement.
Voilà, il n'y a aucun enregistrement, il n'y a aucune trace de quoi que ce soit. Donc on le fait avec sa propre personnalité, avec sa propre voix, avec sa façon de chanter. Mais
vous, par exemple, est-ce que si vous aviez travaillé avec Lully, est-ce que vous auriez des questions sur sa fabrication ou sur comment interpréter telle ou telle chose.
Mais je crois qu'il était très, très, enfin, il était très précis et très rigoureux. Et c'est lui qui a, comme vous le disiez aussi, qui a lancé la tragédie lyrique mise en musique, c'est-à-dire qu'on partait du texte et qu'on le mettait en musique après, avec l'importance des syllabes longues, des syllabes courtes, les accents dans la. Quand vous parlez français, il y a des syllabes que vous appuyez plus que d'autres. Lui, il mettait des notes longues sur les accents toniques. Enfin, voilà, c'est toute une rhétorique.
On prononçait chaque syllabe, chaque. Voilà. Il n'y avait pas d'ellipse, il y avait. Non, c'était.
Voilà, c'est ça. Chaque syllabe, chaque E muet était important. Il avait son rythme aussi dans la phrase, dans les vers, dans les poésies. Oui. Enfin, c'était vraiment une grammaire et une machine très, très rigoureuse. Et c'est ça qu'on apprend maintenant dans les conservatoires, grâce entre autres à William Christie qui a fait toutes ses recherches.
Et grâce à William Christie, maintenant on a redécouvert la musique baroque et. Ça ne manque pas de spectacle et un album. Merci en tout cas Véronique Jans.
Merci
à
vous.
Votre album Passion dans lequel. Donc je me tais.
Dans lequel. Je l'ai coupé. Non, chut, Stéphane, chut. Non, allez-y Stéphane, c'est bon.
Dans lequel vous interprétez outre Lulu des airs célèbres, extraits d'Alceste, Abadis ou encore Proserpine, et c'est disponible sous le label Alpha Classique. Je signale aussi que vous interpréterez sur scène les airs célèbres de Lulu accompagnés de l'ensemble Les Surprises. Ce sera le 18 février prochain au Théâtre des Champs-Élysées à Paris et voilà, on prend date.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui ont dansé avec les stars. Après Jean-Baptiste Lully, qui a dansé avec le Roi Soleil, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai de celui qui fait danser les stars sur TF1, Chris Marquez.
Oui, Stéphane, c'est l'une de vos deux émissions tabous, hein, on va dire, chaque année, comme la production de Fort Boyard, la production de Danse avec les stars, vous appelle, vous propose 400 000 euros pour 3 semaines de tournage à la Plaine Saint-Denis, et comme chaque année, vous leur répondez avec panache, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, 400 000 boules, c'est ce que je prends en deux numéros de Secret d'Histoire, bande de nazes.
Mais vous êtes dingue.
Chers auditeurs, je fais monter votre code, Stéphane. Non, chers auditeurs, je sais que c'est décevant et que vous auriez rêvé de voir Stéphane se déhancher sur un mambo, mais non, ça n'arrivera pas. Sauf évidemment si France Télévisions taille dans ses budgets. Danse avec les stars n'en reste pas moins une émission qui rencontre un vif succès. Et si on y réfléchit, c'était pas gagné quand même. Avant que TF1 ne lance le programme, notre conception de la danse latine était assez sommaire. Pour nous, ça consistait, lors d'une soirée Copacabana, à ingurgiter un maximum de caipirinha afin de trouver le courage, vers 3h du mat', de se frotter langoureusement contre un ou une partenaire consentante, le regard vide, la chemise détrempée de sueur, le tout hors rythme. Bref, la danse latine, c'était juste un prétexte.
Pour s'embrasser et se tripoter.
Embrassard y tripotard. Si, Davido. Pour Chris Marquez, emblématique membre du jury de Danse avec les stars et accessoirement champion du monde de salsa pendant 4 années consécutives, la danse, c'est tout autre chose. Pour Chris Marquez, Stéphane, la salsa n'est pas qu'une sauce.
Vraiment ?
Oui. Et Marquez n'est pas seulement le nom de votre chef de chantier à Saint-Germain-en-Laye. C'est un danseur et chorégraphe de talent dont la notoriété a explosé avec Danse avec les stars. Il faut dire qu'il ne passe pas inaperçu avec sa chevelure chelou type crête de coq, ses fringues, disons, étonnantes et un volume sonore susceptible de déranger jusqu'à vos voisins.
Un incroyable 8 !
Un personnage truculent, éminemment télégénique, mais qui est aussi donc, rappelons-le, un danseur d'exception. Vu sa passion pour la salsa, on imagine volontiers Chris Marquez naître à Cuba. Raté ses fans. Il vient au monde le 16 juin 78 à Colmar. Et il ne s'appelle pas Chris, mais Jean-Christophe. Oh, qu'elle est loin encore, la lambada. Son père est portugais, sa mère espagnole. Grâce au site l'Alsace.fr, on atteint une haute précision géographique. Le petit Chris Marquez a grandi rue de la Luce, au bord de l'A35. Le genre de cadre qui vous donne des envies d'ailleurs. Et c'est par la musique que le petit Jean-Christophe va s'évader. Maman Marquez est fan de flamenco et papa est chanteur dans un groupe de musique latine.
Je m'appelle Manitas de la Vitas et je vais interpréter une balade uruguayenne.
Très tôt, Jean-Christophe accompagne ses parents au bal. Ça m'a appris à travailler en public, ça m'a inculqué les bases du solfège dont j'allais avoir besoin plus tard, mais pas trop vite. Pour l'heure, Chris est encore un enfant plutôt renfermé, voire casanier. À l'école, il fait d'ailleurs l'objet de railleries. Lors des booms, il est plutôt celui qui s'enfile du banga au buffet en regardant les autres danser, plutôt que celui qui pécho constant, si vous voyez ce que je veux dire. Danser, ce n'était vraiment pas moi, se souvient Chris. Mon petit frère et ma petite sœur, oui, en revanche, étaient fabuleux, mais pas moi. À 12 ans, pourtant, il décide de se lancer et s'inscrit à son premier cours de danse. En toute honnêteté, j'y suis allé pour rencontrer des filles. Mais mais après une demi-heure de cours, j'ai compris que c'était quelque chose qui était en moi. J'ai décidé d'en faire ma vie. Oui, Stéphane, les pédopsychiatres sont formels, tout se joue à 12 ans. C'est là que nos passions se fixent pour la vie. Vous, par exemple, vous vous endormiez en serrant fort contre votre cœur les mémoires de Nadine de Rothschild en priant Dieu.
Je voudrais que mon prince m'emmène dans son château où nous vivrons, lui et moi, heureux à jamais.
Oui, Chris, lui, s'endort avec contre son cœur la VHS du film Soleil de nuit dans lequel danse son idole, son mentor, Mikhail Baryshnikov, star du ballet russe. Positivement obsédé, Chris rembobine des milliers de fois pour comprendre comment Mikhail place sa tête et sa colonne vertébrale. Une fois qu'il a compris, il passe à la pratique direction Lyon, où il commence à gagner tous les tournois de danse latine auxquels il s'inscrit. À 17 ans, il traverse la Manche pour perfectionner sa technique à Londres, où il est d'ailleurs responsable, pour gagner sa vie, responsable informatique du commerce électronique dans une PME. Car oui, Jean-Christophe kiffe aussi l'informatique. Un geek fan de salsa, voilà ce que je qualifierais de profil inquiétant. Pas inquiétant, genre Castello Lopez inquiétant.
J'adore les opinions.
Mais inquiétant quand même. Chris est donc un geek. Il bosse dans le service informatique d'une petite boîte, mais contrairement à la grande majorité des informaticiens, lui est bien décidé à avoir des relations sexuelles. Pour ça, direction la piste de danse. Elle est loin l'époque des booms et du manga solitaire. Là, désormais, Chris cartonne. Il rencontre Jacqueline Spencer lors d'une compétition de 97 à Blackpool en Angleterre. Elle est championne du monde de danse standard. Chris danse à l'époque avec une autre partenaire. Jacqueline et lui sont donc concurrents. Ça se jauge, ça se reluque. Puis, ça sympathise dans les vestiaires mixtes, ça échange. Comment tu le fais, toi, ce pas de bourré? Comme ça? Moi, je le ferais plutôt comme ça. Viens voir, je vais te montrer dans les sanitaires, on aura plus de place. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'imagine la chose à l'époque. L'histoire est belle puisqu'ils remportent ensemble, en 2003, les titres de champion de Grande-Bretagne, champion d'Europe et champion du monde de salsa, titre qu'ils vont conserver 3 années consécutives. Mais quand il n'est pas sur le parquet, Chris Marquez commence alors à entraîner les autres, mettant en scène pour Cuban Groove et Dance Rocks, qui, contrairement à ce que leur nom laisse penser, ne sont pas des cocktails à base de Malibu, mais de célèbres compagnies de danse. Il devient ensuite chorégraphe de Strictly Come Dancing sur la BBC, la version anglaise de Danse avec les Stars, avant de devenir le personnage phare de notre Danse avec les Stars à nous sur TF1, où il est à la fois membre du jury et directeur artistique. La suite du CV de Chris ressemble à une francesinha, vous savez, cette recette portugaise réunissant tous les ingrédients les plus improbables. Ouais. Directeur artistique des Energy Music Awards, acteur dans le clip de la youtubeuse Natou, participant à l'émission Le Meilleur Pâtissier, présentateur sur Gulli, animateur de Star à Nu sur TF1, où il crée des chorégraphies de stars à poil. Plan de carrière, pas de plan de carrière. Et quelque part, c'est rafraîchissant par rapport à des calculateurs machiavéliques comme vous, Stéphane, qui ont pensé chaque étape de leur carrière pour finir à la tête du ministère de la Culture, pépouze à 60 balais. Je dis bravo, Chris Marquez. Ah, pardon Stéphane, ça c'est la prod de Danse avec les Stars. Stéphane, 500 000 les 3 semaines, plus les tickets restaurants. Allez, dites oui, faites-le pour nous.
Non.
500 000 les 3 semaines, vous y allez. Ils vous ont proposé
de... Jamais, vous imaginez.
Pas des sommes, mais ils vous ont pas proposé de faire Danse avec les Stars.
Mais non, vous avez vu mon physique.
Oui, enfin, je crois que vous avez vu Danse avec les Stars. L'idée, c'est de mettre des gens. Il y a des gens qui sont forts en danse, puis il y a des gens qui sont plutôt débutants, quand même.
Oui, oui. J'ai un problème de proprioception.
Oui, c'est la proprioception.
Vous me dites, faut aller à gauche, je vais à droite, qu'il faut tourner comme ça.
C'est vrai que c'est emmerdant. Oui. Mais vous conduisez, ceci dit, vous conduisez une voiture, donc vous pouvez peut-être.
Je pourrais m'améliorer. Écoutez, qu'on me le propose et après on ira ensemble.
Faites-lui une proposition.
Voilà. Merci Mathieu, en tout cas j'ai bien ri, c'était très sympathique. Et ce personnage
a l'air très
intéressant aussi.
Europe 1, historiquement vôtre.
Bon, il est le temps maintenant de dire au revoir à nos personnages du jour. Bon, qu'est-ce que vous faites Mathieu, c'est incroyable.
Eh bien je dis au revoir à nos personnages du jour, mais en moonwalk.
C'est prodigieux, vous êtes beaucoup entraîné.
Même pas, je sais, c'est écœurant. Retrouvons l'appétit avec Olivier Pouls.
Il fait le moonwalk avec ses mains.
Ouais. C'est trop radio. Je le fais avec ses mains.
Non mais arrêtez, c'est de la radio. Si en plus on peut pas faire croire aux auditeurs des choses qui existent.
Et que Mathieu Noël fait du moonwalk.
Mais pourquoi pas?
Attends de le voir.
Mais pourquoi pas?
Bon bah écoutez, en attendant, reprenez un petit nougat.
Oui, redonnez-moi plutôt un petit nougat. C'est très bon pour le moonwalk.
Un petit nougat, on en parle dans un instant.
Mais d'abord, David Castello Lopez
qui nous raconte l'origine de quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Aujourd'hui, c'est le point d'exclamation.
Oui. Si vous voulez marquer la fin d'une phrase, en gros, à l'écrit, il y a 4 options. Hein. Il y a le point, il y a le point d'interrogation, il y a le point de suspension et il y a le point d'exclamation. Et on voit tout de suite que le point d'exclamation, dans son utilisation traditionnelle au moins, il est à part, il est unique parmi ces 4 points parce que c'est le seul qui transmet une émotion. C'est le seul point qui vous renseigne sur l'ambiance générale du propos que vous êtes en train de lire. Si j'écris Stéphane, point d'exclamation, c'est forcément soit Stéphane, vous voyez, soit éventuellement Stéphane, vous voyez, mais ça peut pas être Stéphane, tout court. Et c'est quand même remarquable. Alors le point d'exclamation, il y a quelqu'un qui affirme l'avoir inventé, même si c'est dur de prouver qu'il a raison. Et ce quelqu'un, c'est un poète italien du XIVe siècle qui s'appelait Jacopo Alpoleio da Urbisaglia. Urbisaglia, je pense qu'on prononce en italien. Et qui l'utilisait exactement comme on l'utilise aujourd'hui. Après ça, il a connu des fortunes diverses, le point d'exclamation. Mais à partir du XXe siècle, on peut dire que son cool, le cool qui lui était attaché, a fait vraiment des montagnes russes. Montagnes russes qui ont été particulièrement bien étudiées chez les auteurs américains. Les auteurs américains du début du XXe siècle, ils en utilisaient quand même beaucoup. Francis Scott Fitzgerald, par exemple. Et puis, dans les années 20, après les années 20, c'est devenu un petit peu ringard. Et surtout, c'est devenu pas viril, c'est devenu un truc un peu de gonzesse.
Mais aux États-Unis, parce que relisez ces lignes, il y a beaucoup de points d'exclamation.
Oui, il y en a quelques. Non, c'est vrai, c'est vraiment. Enfin, là, c'est en tout cas, c'était aux États-Unis, c'est comme ça. Peut-être que Céline est même une exception, quoi. Un truc, voilà, pas viril, et peut-être pas par hasard, Hemingway. L'auteur viril par excellence quand même, il en utilisait très peu. Il y a un très bon mini-documentaire du média américain Vox sur la question qui a compté que dans Le vieil homme et la mère, par exemple, il y en a un seul point d'exclamation. Et c'est assez fou de voir que le point d'exclamation, encore aujourd'hui, il est un petit peu genré. 75% des points d'exclamation dans la correspondance, ils sont utilisés par des femmes. Et il est aussi perçu de façon différente selon que c'est une femme ou un homme qui l'utilise. Si c'est une femme qui utilise un point d'exclamation dans un email, il y a 50% des hommes en moyenne qui considèrent que ça fait très professionnel. Et quand c'est un homme qui utilise un point d'exclamation, il y a plus que 30% des hommes qui trouvent que c'est pro. C'est-à-dire qu'ils trouvent ça plus pro quand c'est une femme qui l'utilise que quand c'est un homme. Mais tout ça, ça montre surtout que le point d'exclamation, il a changé dans ses utilisations. Avant, on mettait un point d'exclamation dans une seule situation, après une exclamation, hein, comme par exemple Waterloo, morne pleine, voyez, point d'exclamation. Mais petit à petit, on a commencé à l'utiliser, on pourrait dire, un peu n'importe comment. Dans les publicités d'abord, pour donner un sentiment de bonne humeur et d'urgence complètement vide. Dans les slogans, hein, ou les noms de partis politiques, même La République en marche, vous voyez. Voilà.
Et alors, attention, ne critiquez pas trop La République en marche, s'il vous plaît.
Bon, Stéphane.
Ça va bien, hein,
oui, mais...
ce que vous voulez. Et alors, depuis quelques temps, c'est devenu complètement n'importe quoi. Je pense que vous l'avez remarqué, pour beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est devenu la seule façon de finir une phrase. Hein, genre, merci pour ton mail,
c'est vrai.
Pour moi c'est bon, tu peux imprimer, je contacte la compta, à plus tard, bise, tout avec des points d'exclamation à la fin. Même moi qui suis normalement quand même super parcimonieux, j'ai fini par y céder et j'en fous partout. Parce que la vérité c'est qu'aujourd'hui quand on met un point simple à la fin d'une phrase, on a l'air désagréable, on a l'air d'avoir adopté un petit ton de FDP, vous voyez, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Et si vous voulez conjurer cette impression, vous mettez un point d'exclamation et c'est tout. Alors il y a aussi des gens qui ont voulu inventer d'autres points pour transmettre des émotions plus subtiles que le point d'exclamation. Vous avez déjà parlé du point d'ironie, mais Hervé Bazin, l'écrivain français, il en avait proposé d'autres. Il avait proposé le point d'autorité, le point d'acclamation, le point de conviction, mais aucun de ces points n'a pris. Et je pense qu'ils ne prendront plus jamais parce que l'internet et les textos, ils ont amené une sorte de système de ponctuation suprême et infini. D'abord sous la forme des émojis, dont j'ai déjà parlé dans cette émission, hein. Bonjour, petit visage qui rougit, vous voyez. Et d'autre part sous la forme des gifs. Aujourd'hui, pour ponctuer une phrase, vous pouvez mettre carrément une image de Will Smith qui danse, vous voyez, ou de Stéphane Bern qui ouvre une porte. J'ai vérifié.
Ah oui, ça existe,
beaucoup,
bien sûr.
Beaucoup de gifs de Stéphane Bern qui ouvre des portes.
Tu seras le bienvenu à la maison ou à telle heure à la maison.
Voilà, exactement. On va ouvrir la porte. Ça, exactement.
Ça donne une dimension.
C'est consécration.
Vous êtes une gif.
Un gif, oui.
Exactement. Voilà, donc pourquoi, quand on peut mettre Stéphane Bern comme ponctuation, pourquoi se limiter à un point d'exclamation?
Vous avez raison.
C'est nul.
En tout cas, merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et évidemment sur le site europe1.fr.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'émission qui remonte pour vous aux origines des recettes et des bons produits français. Aujourd'hui, vous nous avez apporté une boîte pleine de nougat.
Eh oui, ben parce que lorsqu'on évoque le nougat, en général, on pense à quelle ville en France ?
Montélimar.
Évidemment, on pense à Montélimar, même si le nougat n'est pas originaire de Montélimar, mais je vais vous raconter son histoire dans un instant.
Non,
et puis surtout, mais c'est une spécialité qu'on trouve dans tout le bassin méditerranéen. Aujourd'hui, il y a des nougats et des versions de nougat un petit peu partout. Alors, le mot nougat est dérivé du latin nux gatum, qui veut dire gâteau au miel et aux noix, qui était une ancienne préparation, mais cette recette n'a pas grand-chose à voir en fait avec celle du nougat actuel, et en tout cas pas celle du nougat de Montélimar. Alors cette dernière, elle apparaît au Xe siècle dans un livre de recettes arabe publié à Bagdad, figurez-vous. Et on l'appelle alors le natif. Il serait originaire d'Aran, en Turquie, et aurait ensuite été propagé par les Phéniciens. En France, c'est par la ville de Marseille qu'il arrive. Et pendant longtemps, Marseille va se distinguer pour la confection d'un nougat qui est un petit peu différent de celui d'aujourd'hui. Les premières mentions de nougat à Montélimar remontent, elles, au XIe siècle, à 1097 pour être précis, mais son développement et la mise au point de la recette actuelle arrivent au XVIIe siècle avec l'introduction dans la région de quoi ? Non ?
Ah, je sais pas.
D'un arbre qui
L'olivier.
Va tout changer. Ah non,
les l'amandier.
L'amandier. Exactement.
Et oui.
Merci Olivier de Serres qui a introduit, qui était un célèbre botaniste de l'époque, qui a contribué à l'introduction donc dans la région de l'amandier. Et puis surtout d'un autre ingrédient qui va faire son apparition dans la pâte de nougat et qui va tout changer, le blanc d'œuf. Et donc ça va permettre au nougat d'être plus moelleux, plus onctueux, et de prendre cette forme actuelle. Alors il existe aujourd'hui de nombreuses versions de nougat. On les trouve en Italie sous le nom de torrone, en France, en Espagne, turrone.
Mais le turrone, ça n'a rien à voir avec du nougat.
Ah bah, c'est du nougat.
Ça a quand même plus à voir qu'une côte de bœuf.
C'est une recette dérivée du nougat.
Oui, je suis d'accord. Mais bon,
voilà, on en trouve aussi dans les pays du Maghreb, au Maroc, par exemple, en Grèce ou même en Iran. Donc il y a plein de versions du nougat. Mais notre version ici de Montélimar, qui est jalousement gardée par les nougatiers de la ville, je crois qu'il y a environ une petite quinzaine de producteurs de familles héritières de la production de nougat. Et là, je vous ai apporté ceux de la marque Chabert et Guyot, c'était le 173e anniversaire, je crois, de la création de cette fabrique. 5 générations de nougatiers avec plusieurs recettes et dont la fameuse recette traditionnelle du nougat. Alors, pas de recette de nougat aujourd'hui parce que c'est franchement un petit peu compliqué,
c'est
un
compliqué
peu technique à faire,
oui.
Mais en revanche, je vais vous donner une recette à base de nougat, et avec des nougats, s'il en restait dans cette boîte, mais malheureusement, je pense qu'on aura tout mangé d'ici tout à l'heure, il faudra reprendre une autre boîte, vous pourriez faire un petit nougat glacé. Des nougats glacés, c'est pas mal ça. Et c'est très simple à faire en fait. Vous allez donc prendre des nougats comme ceci, plein de petits nougats. Vous allez prendre à peu près 250 grammes. Vous allez prendre de la crème liquide. Vous allez faire chauffer la crème liquide, tout doucement faire fondre les nougats dedans, puisque évidemment ils sont constitués de sucre, de blanc d'œuf, on l'a dit tout à l'heure, et tout ça va fondre, va vous donner une jolie pâte. On va légèrement la mixer, mais pas trop, de manière à garder quand même des petits morceaux d'amande.
Oui, c'est ça.
On va mouler ça dans un petit moule. Et on va le placer au réfrigérateur pendant 4 ou 5 heures, le temps que ça durcisse.
Au congélateur même.
Au congélateur,
oui,
pardon.
Oui, plutôt, parce qu'au réfrigérateur, ça ne donnera pas le
vous
même résultat.
Vous avez raison, au congélateur. Et quand ça a bien durci, vous avez un nougat glacé. Vous
c'est
avez
génial.
L'expression du goût du nougat. C'est un petit dessert facile, un peu calorique.
Un peu calorique. Et vous savez combien on fait attention dans cette émission.
Franchement délicieux. Voilà, alors lorsque vous passerez sur la Nationale 7 vers Montélimar, vous vous arrêterez faire le plein de nougat.
Moi, je trouve ça toujours remarquable, ces opérations marketing, ces villes qui ont réussi à être connues grâce à un produit comme les... Ben, il y a Montélimar, il y a les fraises de Plougastel, il y a les pruneaux d'Agen.
Les bêtises de Cambrai.
Les bêtises de Cambrai, c'est vraiment des réussites marketing super fortes.
Alors que ce n'est évidemment pas déposé puisque... Alors, je crois qu'il y a une demande en cours à l'heure actuelle pour une indication géographique protégée pour le nougat.
Nous suivrons ce dossier de près. Merci Olivier.
Merci Lipouls.
On retrouve toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr. Et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1.
Europe 1, historiquement vôtre.
Dis donc Stéphane, ça serait pas l'heure de la lutte finale ?
Mais oui, ça y est, c'est la lutte finale. Une guerre sur fond de connaissances historiques entre Olivier, Mathieu et David.
Sur fond de connaissances historiques, j'aime bien cette idée, ça résume bien.
Sur fond de hasard.
Sur fond.
Olivier, c'est pour vous la première question. Au XVIIe siècle, au Japon, on rajoutait de fausses antennes aux casques de combat pour symboliser la fourmi, un insecte qui était gage d'organisation et d'abnégation. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ?
à que la fourmi soit insecte très très bien organisé. Il n'y a pas doute.
Et si on se rajoutait les fausses antennes,
les samouraïs avaient des casques avec des antennes.
Oui.
C'est possible. Moi, je trouve que les Japonais. Alors après, non, il y a aussi cette histoire de comparer les Japonais aux fourmis qui a fait un énorme scandale. C'était la première ministre. Je crois que c'était Edith Cresson qui avait
Absolument. Notre seule femme première ministre.
Ouais, et ça c'était pas très bien
c'est
passé.
Une fausse piste.
Donc c'est une fausse piste. Alors je dis non, c'est faux.
Ça y est, vous avez marqué un point, mais pas du tout pour les raisons.
Ah bon,
en fait, c'était un piège, c'était pas des fourmis, c'était des fausses ailes de libellules.
Ah bah oui, mais quand même, on peut pas
gage d'organisation et d'abnégation, mais la manière de symboliser la vigilance et la persévérance des libellules. Alors David, le président de la République est également chanoine éternel de la basilique sacrée de Saint-Jean de Borgard à Rome. C'est vrai ou faux ?
Chanoine sacré ?
Chanoine éternel de la basilique sacrée de Saint-Jean de Borgard à Rome. C'est vrai ou c'est faux ?
J'en ai jamais entendu parler, quoi.
Jamais ?
Non.
Oui, ça pose problème, alors.
Vas-y, je veux dire oui.
Oui. Alors, c'était
pas
un siège.
C'est plus compliqué que ça.
Il n'est pas chanoine éternel, il est chanoine régulier. La basilique sacrée, c'est la basilique majeure. C'est pas Saint-Jean de Borgard, c'est Saint-Jean de Latran.
Il y avait beaucoup d'erreurs.
Vous
seriez pas tombé dans le panneau, vous, Stéphane.
Non, parce que oui, Saint-Jean de Latran, c'est très connu. Les accords du Latran. Voilà. Mathieu, il vous reste une chance de sauver votre réputation. La Grande Motte, c'est votre surnom à Europe 1, mais c'est aussi une station balnéaire bâtie dans les années 60-70.
Oui, je connais très bien la Grande Motte.
Le principal architecte fut Jean Balladur. Mais rien à voir avec l'ancien Premier ministre. Vrai ou faux ?
Bon, écoutez, là, franchement, pas à tourner autour du pot 3 heures. À un moment qui s'appelle François Balladur, ça n'aurait pas de sens. Je dis oui, c'est vrai, ça doit être vrai.
Non, c'est faux. Ça n'a pas rien à voir
avec... Ah, c'est son frère.
C'est son cousin.
Son cousin, ah oui, d'accord. Oui, c'était ça le piège.
Qui a gagné aujourd'hui ?
Non,
c'est
nous qui
avons les résultats. Je voudrais bien les entendre de votre bouche.
Bravo, Olivier.
Magnifique. Historiquement vôtre, c'est fini. Est-ce que vous voulez que je refasse un petit moonwalk, Stéphane ?
Oh non, merci, ça ira. Une fois, c'était bien.
Vraiment ?
Oui, Mathieu, je suis désolé, mais je crois vraiment que vous n'avez aucune chance d'être contacté par la production de Danse avec les stars.
Avec les mains.
Il est temps pour vous d'avancer. Là.
Vous avez raison, Stéphane.
Oui, à demain, Mathieu.
Je tente.
Oui, c'est bien. À demain,
Stéphane.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.